Silcast présente l'analyse longue. Thème du jour, géopolitique, avec Sacha et Alex. Bonne écoute.
On rentre direct dans le vif du sujet aujourd'hui. Cinquième jour d'échange de frappes entre Washington et Téhéran, le détroit d'Ormuz officiellement fermé par les gardiens de la Révolution, et Trump qui menace maintenant de frapper Pickaxe Mountain, un site lié au programme nucléaire iranien qui n'avait pas été touché lors des deux dernières guerres. Trois articles au menu, deux du Guardian sur l'escalade militaire et un entretien du Grand Continent avec la première ministre estonienne qui, à première vue, semble hors sujet, mais qui nous permettra de recadrer ce qui se joue aussi côté russe pendant que l'attention est aspirée par le Golfe.
Et la thèse d'ensemble, si je te suis, c'est qu'on a une séquence où deux fronts s'articulent. L'Iran qui bloque Hormuz et frappe les bases US au Bahreïn, en Jordanie, au Koweït, pendant que Moscou profite du moment pour durcir le ton sur l'Ukraine. Deux crises, un seul système.
Exactement. Commençons par le blocus. Le Guardian rapporte que le blocus américain est entré en vigueur mercredi matin, suivi de 90 minutes de frappe sur les défenses côtières iraniennes. Bilan iranien, au moins 7 militaires tués, plus de 300 blessés, et selon la porte-parole du gouvernement Fatemeh Mohajerani, une trentaine de civils tués dans le sud du pays ces derniers jours. Et en réponse, les gardiens de la Révolution ont sorti une formule qui résume tout. Je cite, « Les exportations énergétiques régionales sont soit partagées par tous, soit refusées à tous. »
C'est presque du léninisme appliqué au pétrole, cette phrase. Soit tout le monde, soit personne. Et concrètement, ça veut dire quoi? Un cinquième du pétrole et du gaz mondial passait par là avant la guerre. Là, les compagnies maritimes évitent le détroit, même via le programme militaire américain censé garantir le commerce. Les prix du brut montent, on a dépassé le pic d'il y a un mois.
Et il y a un détail que je trouve significatif dans l'article. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, dit que le blocus américain a démantelé de facto le mémorandum d'Islamabad. Ce mémorandum, c'était l'accord intérimaire censé maintenir Hormuz ouvert et laisser une fenêtre à des négociations vers une paix permanente. Donc, côté iranien, le message est clair. L'architecture diplomatique construite depuis le dernier cessez-le-feu est morte, et c'est Washington qui l'a tuée.
Ce qui est fascinant, c'est le côté « je ne veux pas donner de deadline, mais ils savent ». La méthode Trump, dans son état pur, l'ambiguïté stratégique remplacée par de l'ambiguïté rhétorique.
L'ambiguïté rhétorique au service d'une escalade parfaitement lisible, oui. Et derrière, il faut voir la structure. Un impérialisme américain qui, incapable d'imposer un ordre stable, en revient au recours bruit à la puissance militaire pour verrouiller les flux énergétiques. Ce n'est pas de la force, c'est un aveu d'impuissance politique.
Passons au deuxième article, la vague de frappe de jeudi matin. Là, on change d'échelle. Sancom annonce avoir frappé Bandar Abbas, port-clé pour la marine et les gardiens de la Révolution, plus Greater Tunb Island. Et surtout, pour la première fois dans ce round, les défenses aériennes de Téhéran ont été activées. La capitale elle-même entre dans le périmètre.
C'est le seuil symbolique qui saute. Jusqu'ici, on restait sur les infrastructures côtières et militaires du Sud. Là, Téhéran. Et en parallèle, l'Iran frappe des installations américaines en Jordanie avec des drones kamikazes, cible les systèmes de communication et les stocks de carburant. Le Belma, ce pétrolier dont CENTCOM a désactivé la cheminée à coups de missile parce qu'il tentait de violer le blocus. On est dans une guerre navale ouverte. Avec une imposante à être intense, tant d'extrêmement.
Et le président du Parlement iranien, Ghalibaf, dit un truc intéressant. Que l'Iran n'a jamais accueilli la guerre, mais appelle à la fois à la résistance armée et à utiliser les outils de la diplomatie. Ce double langage, c'est une position de faiblesse ou de calcul.
Les deux. C'est la position classique d'un régime qui sait qu'il ne peut pas gagner une guerre d'attrition contre les États-Unis, mais qui sait aussi qu'en fermant Hormuz, il inflige une douleur économique globale qui va finir par produire des pressions diplomatiques sur Washington. Trump libère une prisonnière américaine, Dana Karari, le même jour où il menace de bombarder Pickaxe Mountain. C'est ça, la matrice. Escalade militaire et micro-gestes de désescalade humanitaire en parallèle pour maintenir un canal ouvert.
Ce qui me frappe, c'est que dans cette configuration, aucun des deux camps n'a intérêt à un vrai cessez-le-feu maintenant. Trump a besoin de la démonstration de force. Le régime iranien a besoin de la posture de résistance pour tenir son front intérieur.
Et pendant ce temps, Moscou observe. Ce qui nous amène au troisième article, l'entretien du Grand Continent avec Kristen Michal, le premier ministre estonien. À première vue, on change de dossier, en réalité, on comprend mieux le premier.
L'angle qu'il pousse est fort. Il dit en substance que ceux qui, en France, expliquent que la menace russe n'existe pas, parce que la Russie est en difficulté, confondent la cause et l'effet. Elle est en difficulté parce que la stratégie européenne, sanctions, flotte fantôme traquée à voir gelée, fonctionne. Retirez la pression et la menace revient intacte.
C'est une remarque méthodologiquement juste et politiquement redoutable pour une partie de la gauche française souverainiste qui utilise l'argument de la faiblesse russe pour justifier la désescalade. Mikhaïl renverse le raisonnement. Mais il pousse plus loin, et c'est là que c'est intéressant pour notre sujet du jour. Il dit que même si un cessez-le-feu était signé demain, la Russie aurait des centaines de milliers d'hommes rompus au combat, célébrés comme héros, qu'il faudrait recycler quelque part. Question, où iront-ils ?
Et sa réponse implicite, c'est vers les activités criminelles, ou vers d'autres théâtres. C'est un problème de sécurité intérieure européenne à venir. Franchement, c'est une projection qui fait froid dans le dos parce qu'on a vu le même schéma avec les vétérans afghans dans les années 90 côté soviétique.
Et il y a un autre passage crucial. Les cyberattaques contre l'Estonie ont triplé en 3 ans, malgré la guerre en Ukraine qui est censée absorber toutes les ressources russes. Mikhaïl prédit que d'ici 6 à 18 mois, la Russie utilisera l'IA pour analyser, corrompre et voler des données à grande échelle. Le lien avec le dossier iranien, c'est que dans les deux cas, on a des puissances révisionnistes qui ne peuvent plus se contenter des instruments classiques et qui investissent massivement dans les instruments hybrides, cyber, drones, guerre informationnelle.
Là où je serais un peu plus critique sur cet entretien, c'est que Mikhaïl parle depuis une position estonienne. Donc un pays qui a un intérêt vital à ce que le récit de la menace russe reste au centre. Ça ne veut pas dire qu'il a tort, mais il faut lire ça en sachant d'où il parle.
Bien sûr, mais son argument sur la confusion cause-effet tient indépendamment de son positionnement. Et son point sur la démobilisation post-conflit, c'est de l'analyse froide, pas de la propagande.
En synthèse, alors, qu'est-ce qu'on retient ? Moi, je vois 3 choses. 1. Les États-Unis viennent de démolir eux-mêmes le cadre diplomatique qu'ils avaient contribué à construire à Islamabad. 2. L'Iran répond par une stratégie du chaos économique global, Hormuz fermé, prix qui monte, pression sur les alliés US du Golfe. 3. Pendant que la tension est tapée par le Golfe, Moscou avance ses pions, menace de considérer les troupes occidentales en Ukraine comme cible légitime et intensifie sa guerre hybride sur le flanc Est.
Je te rejoins sur les faits, mais je lis la séquence un peu différemment. Pour moi, ce qui se joue, c'est la fin d'un cycle. Le cycle où les États-Unis pouvaient prétendre à un rôle de gestionnaire de l'ordre international. Trump ne gère plus, il frappe. Et ce faisant, il valide la logique russe et chinoise selon laquelle il n'y a plus de règles, seulement des rapports de force. L'entretien de Mikhaïl est important parce qu'il rappelle qu'il existe encore une stratégie européenne cohérente, mais cette stratégie devient de plus en plus difficile à tenir quand l'allié américain se comporte lui-même comme une puissance révisionniste.
Et sur le point de désaccord entre nous, parce qu'il y en a un, je pense que tu sous-estimes la dimension intérieure. Trump frappe parce que ça marche politiquement chez lui, pas seulement parce que l'hégémonie décline. Les deux logiques s'articulent, mais la deuxième, celle de la politique intérieure américaine, est peut-être la plus déterminante à court terme.
C'est un débat qu'on aura sûrement l'occasion de reprendre dans les prochains jours, parce qu'entre Pickaxe Mountain, la question du nucléaire iranien et la suite des sanctions européennes, on n'est pas prêt d'en avoir fini.
On s'apprête là pour aujourd'hui.